Eh bien, rebonjour à l'écoute de Transistor sur le 100.4 FM et bien sûr sur les internets. Nous sommes en direct depuis le Salon Vin Nature Illustration qui se déroule au Fou depuis hier. Il se déroule jusqu'à la fin de journée. Vous pouvez venir y déguster des vins, mais des vins nature. Et puis y voir et dédicacer des œuvres d'illustratrices et d'illustrateurs. Et puisque nous sommes au Salon des Vins Nature, nous accueillons une figure du vin nature. Bonjour, monsieur Carauget.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Eh ben, très bien. Il fait soleil. Il y a plein de bons vins dans cette rue. Nous sommes bien accueillis. Nous avons bien mangé hier soir. Non, tout va très bien.
Alors, une figure du vin nature, c'est pas mal. Hein, c'est un peu pompeux.
Oui, c'est un peu pompeux.
C'est un peu pompeux. Je dis ça puisqu'on s'était déjà on s'était rencontrés il y a 2 ans déjà sur ce même plateau. Et je dis figure parce que vous êtes quand même une personnalité dans le monde du vin nature. Vous avez initié notamment un label dont on parlera tout à l'heure, depuis quelques années maintenant. Et puis, vous étiez vous-même viticulteur. Vous êtes, je crois...
Vigneron.
Pardon, excusez-moi. C'est quoi la différence?
Viticulteur, c'est déjà l'industrialisation du métier. Tandis que vigneron, c'est l'équivalent du paysan. C'est les mêmes choses que vigneron et paysan, que agriculteur et viticulteur. Et maintenant, c'est le sort des chefs d'exploitation. Voilà. Donc on a évolué. Moi, je suis vigneron.
Vous nous venez d'Anceny, donc pas si loin que ça.
Oui, c'est...
C'est presque la Bretagne.
Ça reste un débat qui... Voilà.
Alors là, on a des spectateurs, on est déjà dans le débat. Alors je rappelle que si vous avez des questions à poser, si vous voulez intervenir, vous serez le bienvenu.
Donc, nous faisons partie de la Bretagne au sens du traité de Anne de Bretagne avec le roi de France.
Voilà. Donc, c'est pas trop l'objet.
Voilà, non,
mais bon,
pas la peine.
Alors, dans ces cas-là, on peut dire que la Bretagne fait du vin depuis très très longtemps. Donc, vous avez arrêté votre activité et vous avez passé vos terres, je crois, à vos filles.
Non seulement à mes filles, mais aussi, on a eu 7 successeurs sur le domaine. Voilà. Ouais. En différents domaines. Moi, j'avais 26 hectares de vignes, 24 à la fin. Et donc, on a partagé. Voilà. Ouais. Ma fille en a repris 8.
Et alors, en fait, vous avez arrêté, mais pas tout à fait, puisque la preuve, vous êtes là. Donc, vous êtes là et donc vous vendez, là, vous proposez le vin...
De ma fille.
Le vin de votre fille. Qu'est-ce qu'on peut goûter, là? Qu'est-ce qu'on goûte?
On goûte du chenin, du gamay, des cabernets.
Voilà. Alors, donc je disais une personnalité du vin nature, après j'arrêterai, mais parce que vous êtes engagé fortement aussi dans la profession, en tout cas dans la défense de cette méthode. Alors, par le label, mais avant aussi, je pense, ça fait... Vous, par exemple, vous avez travaillé tout le temps en nature?
Non.
Votre parcours, un peu?
Non, j'ai eu la chance de connaître la viticulture d'avant, puisque j'ai été formé par mon grand-père. Mon père avait mis son raisin à la coopérative, mais mon grand-père continuait à faire du vin. Donc j'ai été formé à faire du vin quasiment sans soufre, sans sucre, sans filtration. Et puis je suis allé à l'école et puis c'est moi qui ai amené le soufre, les levures. J'ai dit à grand-père, tu sais pas faire le vin, hein, c'est pas comme ça qu'on apprend à l'école. Et puis après, au bout d'un certain temps, j'ai trouvé que c'était pas bon. Alors, on a commencé par passer en bio.
Virer. C'était quand, ça, le passage à la bio?
On a commencé à faire le changement en 90, pour vraiment officialiser en 97. Voilà. Et on a fait le premier vin nature en 2000.
Est-ce qu'à l'époque, là, en 2000, parce que c'est presque, on peut parler de pionnier?
Non. Non, non, c'est comme en bio. On fait partie de la deuxième vague. Voilà. Ouais. Les pionniers, c'est d'abord, c'est Chauvet... La Pierre.
Donc on reste dans le Val-de-Loire, c'est ça?
Ah non, 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 ces gens-là ne sont pas dans le Val-de-Loire. Dans le Val-de-Loire, c'est les pionniers, c'est Courtois, c'est... j'oublie les noms, mais enfin voilà, je pense à Courtois, ce qui me vient directement à l'esprit. L'autre Courtois.
Ouais.
Quand t'es pionnier, oui.
Et donc on va dire que vous êtes quand même
Puzla.
Parmi les pionniers, parmi les premières générations, en tout cas avoir fait la promotion d'un vin nature, en tout cas d'une méthode biologique. Et aujourd'hui, on en est où? Est-ce que ça, vous avez fait école? Vous trouvez que ça s'est bien développé comme vous l'espériez justement en début de 21e siècle?
Deux points par rapport à ça. D'abord, il y a quand même beaucoup de jeunes qui veulent devenir vignerons et qui s'installent en vin nature. Donc il y a un renouveau de
Ouais, on pourrait presque parler d'effet de mode un peu, non ?
Oh, je pense pas. C'est un mot qui me choque un peu.
Ouais.
C'est un mot un peu polémique. Non, je pense pas que ça soit une mode. Je pense au contraire qu'on revient à des choses plus réelles, plus. Après, c'est le. On a une difficulté puisque notre société a organisé les choses d'une manière industrielle, etc., etc. C'est le combat entre les gens qui vont essayer de bénéficier des accompagner la nature et ceux qui veulent la maîtriser. Voilà, ouais. Je crois que grosso modo c'est ça la différence.
En fait, je vous posais cette question-là puisque en fait, quand on s'est parlé par téléphone, on parlait un peu à bâton rompu, on a parlé de la bio et vous aviez malgré tout une sorte d'amertume quand même, une sorte de constat d'échec sur ces combats que vous avez menés il y a longtemps et dont finalement vous récoltez très peu les fruits, vous trouvez ?
Alors, d'abord, moi, c'est factuel, puisque les surfaces en bio ont diminué l'année dernière en France. Donc, on est bien devant ce que j'appelle une régression, puisque le bio, c'est pas un marché, c'est un mode de production. C'est un mode de production qui élimine la chimie de synthèse. Chimie de synthèse qui n'est pas reconnue par le vivant. Donc de toute façon, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, ça mettra du temps, mais un jour, ça sera bio, parce que c'est un problème de santé publique, c'est un problème de biodiversité, c'est un problème de milieu. Donc voilà, alors, en ce moment, il y a des gens qui tirent profit de ce fait qu'on soit avec la chimie de synthèse et qui sont plus proches du pouvoir et qui donc arrivent à mieux à orienter l'ensemble des politiques publiques ou privées, enfin peu importe. Voilà, et nous, on y a cru, et on a cru faire école, quoi, vraiment, en pensant que le fait qu'on s'engage à fond là-dedans, ça allait entraîner d'autres. Ça en entraîne d'autres, mais pas assez.
Le micro de Sandrine.
Une sorte de bascule, en fait.
Oui, on y a espéré.
OK.
Et qui n'est pas venu.
D'accord. Et cette bascule, vous pensez qu'elle va pouvoir quand même venir plus tard ou...
Ah ben, c'est obligatoire.
D'accord.
Ça, c'est pas une question. C'est obligatoire parce que... je vais vous citer, par exemple, là, vous avez vu, il y a une grosse régression en ce moment concernant Ecophyto, hein, une grosse régression. Il y a une grosse régression puisqu'on veut supprimer l'ANSES, enfin l'Agence nationale de sécurité, je sais plus quoi. On veut la supprimer pour que ce soit le ministre qui détermine quels produits vont pouvoir être mis sur le marché, des produits chimiques, hein, j'entends. Et ce sont de véritables grosses régressions.
Mais d'après vous, pourquoi aujourd'hui, juste parce qu'en fait, là, on parle quand même de plus de 25 ans maintenant, donc on aurait pu s'attendre quand même à une bascule effective. Qu'est-ce qui freine encore aujourd'hui ? Parce que en fait, tous les voyants sont au rouge en termes d'environnement, en termes de pollution. Enfin, on sait qu'on est, on va un peu droit dans le mur. Et malgré tout, au niveau des vignerons, des viticulteurs, enfin en tout cas de la filière agricole. Ça prend pas tant que ça, quoi. Finalement, à vous entendre, c'est tout le temps pénible, quoi. Qu'est-ce qui fait peur, en fait ?
Moi, je suis pas psychologue, hein, donc je vais pas pouvoir vous donner. Ce que je remarque, c'est qu'il y a des effets de propagande. Par exemple, on a créé haute valeur environnementale. On a créé haute valeur environnementale pour faire de la concurrence au label bio. Puisque les aides pour l'aide de la haute valeur environnementale, le gouvernement avait demandé qu'elles soient équivalentes à celles du bio. Mais haute valeur environnementale, si vous regardez le cahier des charges, vous avez le droit de mettre des CMR.
Alors c'est quoi les CMR ?
Les CMR, c'est cancérigène, mutagène, et MR, je sais plus. Enfin bon, bref. Ouais. Et c'est des choses qui sont avérées comme extrêmement dangereuses. Et il y avait dans la presse, là, suite à l'évolution d'Ecophyto, etc., etc., il y a plusieurs 150 médecins, des professeurs qui ont signé en disant « Mais arrêtez, arrêtez, arrêtez !» Mais voilà, hein, regardez l'amiante, par exemple. Le premier médecin qui a déclaré que l'amiante était dangereux pour la santé, c'est 1920. Donc on a arrêté l'amiante en 90 ou 91, je ne sais plus exactement. On a mis 70 ans. Regardez, le chlordécone. Voilà, alors maintenant on voit bien les difficultés. Là maintenant on parle des PAF. Hein, et moi j'ai fait faire des députés chez nous, il a fait faire des analyses de cheveux. Et on a des doses importantes de PAF qui peut-être viennent du fait qu'on touche les cartons.
Mais qu'est-ce qui fait, enfin, quand je vous posais la question, qu'est-ce qui fait peur? Est-ce que le fait, parce que quand on travaille avec la nature, puisque c'est le cas en tout cas du vin nature, ça s'appelle ouais. comme ça, j'imagine d'ailleurs, ouais. On travaille avec le vivant, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui effraie et finalement on se dit, en utilisant les intrants, on va quand même sécuriser un peu tout ça?
Mais oui, c'est. Je vais donner un autre exemple. C'est la grippe aviaire. C'est la grippe aviaire. Et on fait une psychose sur les oiseaux sauvages. Puisqu'on dit toujours que c'est les oiseaux sauvages qui amènent la grippe aviaire dans les élevages. Alors, si vous, je ne sais pas si vous avez vu un élevage. Il y en a chez nous, hein, en Loire-Atlantique, il y en a enfin, des voisins. Hein. Donc, pour savoir si le bâtiment est bien fait, ils mettent des fumigènes à l'intérieur, pour savoir s'il y a des fuites, etc. etc. Il n'y a pas de fuite. Donc, vous avez un rotor qui passe l'air, c'est en surpression. Donc, moi, je ne sais pas, pour les oiseaux sauvages, on s'est dit, peut-être c'est des goélands spéciaux qui foncent à travers les pales de et puis qui arrivent à tomber dans le milieu du poulailler, quoi. Donc à chaque article qu'on lit, il y a toujours cette peur du monde sauvage. Alors qu'au contraire, ça fait partie de nous-mêmes. Et alors qu'au contraire, c'est là qu'il faudrait.
Aujourd'hui, malgré tout, ça peut faire peur aussi de travailler avec le vivant, enfin, travailler avec le vivant, travailler avec le climat, parce que je ne sais pas comment ça se passe par chez vous, mais là, on contrôle un peu. Pas rien, on ne contrôle rien en termes de climat, c'est-à-dire que là on voit les sécheresses dans le sud de la France. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la paonnerie, votre domaine. Est-ce qu'il y a trop de pluie? Comment ça se fait? Par exemple, une saison comme cette année, c'est le climat, comment on le gère en ce moment?
Pour l'instant, ça va.
On l'anticipe.
Pour l'instant, ça va parce que. Alors, c'est Marie, hein, elle fait des évolutions que je n'aurais pas forcément faites. Hein.
Votre fille, donc?
Oui, ma petite fille. Elle a laissé de l'herbe, donc on avait de l'herbe, et ça fait un très bon anti-mildiou. Et ça permet de passer dans les rangs au moment où il pleut, on peut passer. Je crois que c'est un moment important dans notre civilisation, mais je veux pas, hein, moi je suis vigneron. Hein. Mais c'est d'accepter qu'on n'arrivera pas à s'en sortir si on ne prend pas l'accompagnement du vivant. C'est-à-dire le fait de vouloir tout maîtriser, ça nous repousse toujours vers de nouvelles. Là maintenant, ils veulent dire, ils vont changer le climat en mettant des trucs dans le ciel, etc., etc. Mais ça fait des je ne sais plus combien de temps où on.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est les politiques? Est-ce que c'est les. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à passer un peu ce plafond de verre, le terme qu'on a utilisé il y a quelques temps pour certains partis? Et qu'est-ce qui fait que ça plafonne et que justement vous avez un peu ce constat d'échec? Ou alors, je vais inverser la question, comment vous faites, vous, pour convaincre, comment on mobilise les nouveaux producteurs à aller vers ce type de production?
Alors nous, on a mis en place des formations, on est en lien avec des scientifiques, on est en lien qui effectivement essayent de suivre le vivant, essayent de faire toutes ces choses-là, on est en lien avec ces gens-là, et on met en place des systèmes qui effectivement s'adaptent à nos évolutions climatiques, qui s'adaptent à augmenter la biodiversité. On dit maintenant qu'on est des créateurs de biodiversité, hein, voilà, les paysans créateurs de biodiversité.
Comment vous êtes créateur de biodiversité?
Eh bien, alors, nous, on fait partie de la LPO, hein, Ligue de protection des oiseaux, et on est paysans de nature. Et donc, il y a des scientifiques qui viennent voir chez nous s'il y a de la biodiversité, si on l'améliore, qui nous donnent des conseils pour améliorer la biodiversité, par exemple.
C'est-à-dire qu'on vient dans vos rangs, on regarde les petits oiseaux, les petites bébêtes.
Ouais, puis ils nous disent de planter des haies, parce qu'il faut planter des haies, de toute façon. Mmh. Et il faut faire des haies qui fassent au minimum 5 mètres de large. Voilà, pour avoir tous les différents étages, pour avoir tout et on produit de la biodiversité. C'est complètement en dehors de l'image où on dit je vais aller jusqu'au bord de mon champ, hein, pour produire. Mais là, on produit de la biodiversité et c'est une production.
Et donc, cette biodiversité renforce la nature, renforce...
Et ben, sans biodiversité, il n'y a plus de phénomène naturel.
Et donc, ces bons résultats, justement, sur, la bio, enfin, sur l'effet sur la biodiversité, ça peut faire des points en plus ou des arguments en plus pour contrebalancer le manque de contrôle, en fait, de cette, façon de produire.
Ça devrait. Il y a un film là, qui vient de sortir, là, c'est Bienveillant, ou je ne sais plus comment exactement, là, où on voit des paysans, un certain nombre de paysans, 5-6 paysans. Alors, ils luttent, par exemple, contre les vers, les oxures ou des moutons, en mettant des poules qui vont manger les œufs. Et comme ça, ils ne sont pas obligés de traiter tous les mois les moutons. Et donc, ça marche. Et ce n'est pas le même système agricole. C'est-à-dire, on est tous obnubilés par le grand. Voilà, on aime bien les trucs qui sont énormes. Là. Voilà, on aime ça. Les gros tracteurs, 300 chevaux, etc. etc. Bref, vous savez que vous faites passer un tracteur de 300 chevaux sur un champ, même s'il est avec des pneus basse pression, il tue tous les vers de terre qu'il a en dessous de lui. Alors, c'est pas grave tant qu'on a du pétrole pour, grâce aux charrues et au matériel, refaire des circuits aérés dans le sol. C'est pas grave. Tant qu'on a du pétrole, c'est sûr, notre système peut tenir. Le jour où il n'y a plus de pétrole, comment on fait? Et puis même, intellectuellement parlant, ou humainement parlant, dirais-je, est-ce que baser notre vie sur du pétrole, c'est sage, ou c'est même heureux? J'en suis pas persuadé.
Alors, Jacques Carroget, il y a quelques années, vous avez, vous et plusieurs personnes de votre secteur, vous avez créé un nouveau label, le vin méthode nature.
Oui, un syndicat.
Ouais, ça répondait à quelle attente et à quel besoin?
Oh, l'attente, c'était de créer une définition qui puisse être admise par l'administration et par les différents intervenants sur le marché. De manière à ce que quand quelqu'un achète une bouteille de vin nature, il soit sûr que c'est pas fait avec des raisins, que c'est fait avec des raisins bio et que ça correspond à un minimum de définition. En fin de compte, c'est la DGCRF. Hein, le DGCRF,
voilà. C'est quoi cet acronyme fraude?
C'est la Direction Générale des Fraudes.
D'accord.
Hein, qui cherchait une définition. Parce qu'il y a un marché. Il y a un marché du vin nature. C'est pas énorme. Hein. C'est 1% peut-être ou 1,5% du marché du vin en France. C'est un marché qui a bien marché à l'export. En ce moment, on est un petit peu en crise. Hein, mais ça a bien marché à l'export. Et la DGCRF, elle voit dans les restaurants marqué vin nature. Mais elle dit, je veux savoir ce que c'est. Et donc, on a créé. Et puis aussi, on a créé un syndicat pour le défendre. C'est-à-dire faire en sorte que la réglementation n'aille pas vers l'obligation d'ajout de produits ou d'un certain nombre de choses. C'est le même combat pour les fromages au lait cru. Hein, on est dans le même type de combat. Puisqu'il y a des gens qui veulent absolument interdire le fromage au lait cru. Il n'y a pas plus de listeria dans les fromages au lait cru que dans les fromages issus d'une moyenne statistique, hein, vous pouvez regarder, ou une toute petite différence.
Voilà. Alors, de mémoire, vous avez créé ce label il y a 2018
19, ouais.
Voilà. Est-ce que ça a cru? Vous avez comment ça se passe? Il évolue comme vous le souhaitiez? Vous êtes à combien de... C'est des adhérents, c'est ça?
C'est des adhérents, des adhérentes. On a... Alors, les cavistes et les consommateurs peuvent venir. Mais en fin de compte, maintenant, ce sont surtout des producteurs qui sont adhérents. Et disons, on a eu une période de plateau. On est reparti, là... augmenter. Là, ouais.
Et c'est quoi les conditions donc, pour rejoindre le vin la méthode nature?
Alors, on peut adhérer sans en faire.
Ouais.
C'est-à-dire on peut adhérer au syndicat sans en faire. Et puis après, il faut fournir une analyse, faire écrire sur sa déclaration de récolte d'abord, de manière à ce que ça soit bien. Si on dit qu'on produit 50 hectos de vin méthode nature, il ne faut pas après vendre 70. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a une traçabilité de ce côté-là. Il faut fournir une analyse, COFRAC, c'est-à-dire qui est certifié. Et puis après, on fait au tirage au sort, intervenir Écosserre pour aller auditer.
Donc Écosserre, vous nous rappelez un peu ?
C'est certificateur de l'agriculture biologique. Voilà, le plus gros certificateur d'agriculture biologique en France. Et on fait, et ils vont visiter et auditer. Et on prend une bouteille et on analyse les pesticides. Le but, c'est qu'on soit sûr que les vins soient sans pesticides.
Parce qu'en fait, quand on est en vin nature, donc le vin nature, on est plutôt dans la vinification. Et ensuite, dans le travail de la vigne, on est plutôt en bio. Enfin,
ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On n'a pas voulu faire. Vous entendez là toujours des gens qui disent des normes, des on n'a pas voulu rajouter de trucs. On n'a pas voulu faire quelque chose qui on va pas chez tous les vignerons. On y va au hasard. Et parce que pour que ça soit pas lourd, on part d'un a priori qu'on peut faire confiance, mais notre confiance est limitée. Et on la limite par le hasard.
Alors Jacques Roger, on va faire une petite pause musicale et un de vos choix musical, on y revient tout à l'heure.
Marie-Jeanne Gabriel, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Saint. Raconte-nous l'enfant que tu étais, courant du sable fin aux galets. Parle-nous de ces jeunes gens sautant les feux de la Saint-Jean. On pouvait croire au paradis en ce pays. Chante-nous si tu t'en souviens pour passer le ras de Saint, le cantique à Sainte-Marie qu'on ne chante qu'ici. Marie-Jeanne Gabriel, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Saint. La peine et l'ennui de l'automne à l'été, on ne vit qu'au rythme des marées. De la naissance au grand sommeil règne le flambeau de la vieille. On mêle la cannelle au parfum des chandelles. On dira pour embarrasser la mort, joie au trépassé, car sur cette terre fidèle, les âmes vont au ciel. Marie-Jeanne Gabriel, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Saint. Quand le jour s'achève au-dessus de la grève, sur la pierre écorchée de l'île, on croit voir au fond de la brume comme des feux qu'on allume, ou la barque ensorcelée qui apparaît menaçante. Elle vient jeter la peur sur les naufragés, le noir habille la vie des femmes du pays. Marie-Jeanne Gabriel, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Saint. La vie a changé sur le court chemin du Nérote à Saint-Corentin. On ne reste plus très longtemps isolé du continent, même les anciens ne reviennent qu'au printemps. Et la mer a tourné le dos aux pêcheurs des temps nouveaux, elle entraînera les marins loin de l'île de Saint. Marie-Jeanne Gabriel, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Il garde son histoire au plus profond des mémoires, et l'on dit à Paris qu'il est beau le pays des marins d'île de Saint.
Alors on écoutait quoi, Jacques Carroget?
Marie-Jeanne Gabriel de Louis Capard.
Ouais. Pourquoi ce choix?
Bon, d'abord, je connais bien Louis Capard. Ouais. Il habite à 5 km de chez nous. Il habitait avant à côté de Saint-Brieuc, mais maintenant il habite à 5 km de chez nous.
C'est un client?
Il est avec la cousine d'Agnès. Ouais. Enfin, bon, bref, c'est comme ça. Et puis, ce que j'ai beaucoup apprécié chez lui, c'est sa capacité à avoir l'intonation juste en fonction de la musique. Moi, j'avais ça avec Mylène Favennec. Hein.
Ouais,
Mylène Favennec, quand il chantait...
Je pense que Sancho, ici présent, notre animateur spécialiste chanson française à Transistor... ouais.
Voilà. Ben oui, oui, la capacité qu'ils ont à amener la voix sur des textes difficiles, difficiles à chanter, et amener la note juste sur la note de musique, c'est absolument formidable. Moi, je suis ébahi totalement.
Alors, aujourd'hui, donc, 250 adhérents sur le label.
Sur le syndicat, oui.
Sur le syndicat. Et alors, donc, les objectifs de syndicat aujourd'hui.
Alors, l'objectif qui a été réussi, c'est le changement de génération, hein, puisque moi j'ai 67 ans, et il commence à être sage de laisser la main. Et donc j'étais président avant, maintenant j'ai un co-président qui a le même statut que moi. C'est Vincent Ballard, hein, qui est de la Loire. Et ça me fait plaisir. Parce que ça va insuffler de la jeunesse, ça va insuffler de nouvelles idées. Nous, on était avec Gilles Azoni, mon compère. On a eu dans les tripes la nécessité de créer ce syndicat. On a au départ maîtrisé son évolution, de manière à ce qu'effectivement, c'est rébarbatif, mais il y a le souci, il faut suivi administratif, il faut relations avec les appareils de l'État, il faut relations, enfin, etc. Et ça, on a, dans la prime jeunesse, on a maîtrisé le truc, quoi. Et maintenant, ben, c'est à une nouvelle génération d'œuvrer pour redonner d'autres impulsions et faire que le syndicat avance.
Et donc l'objectif, quand même, un objectif premier, c'était de faire évoluer les réglementations européennes, notamment.
Alors, c'est toujours un objectif.
Ouais.
C'est toujours un objectif et c'est une nécessité.
Et comment quelle réglementation, parlez-nous.
Alors c'est la réglementation du vin.
Ouais.
C'est la réglementation du vin pour que le soit reconnu le vin méthode nature, de manière à ce que soit promu plus tard. C'est un tout petit truc qu'on fait, on a bien conscience que dans l'océan des choses qu'il y a à faire, c'est. Mais nous, ça nous travaille puisqu'on est amateur de vin, puisqu'on est vigneron. Mais le but, c'est qu'effectivement, ça rentre dans la tête qu'on peut faire des choses avec la nature, qu'on peut, et puis par rapport au goût, parce que quand même, ce qui est fondamental, c'est le goût. Par rapport au goût, ça garantit un minimum d'émotion, puisqu'il n'y a pas de... Alors, je vais vous dire un truc. Là, vous connaissez peut-être Gilles-Éric Serralini.
Non.
Je l'ai rencontré une fois, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et donc, c'est un type qui a fait des essais sur les OGM. Il a fait manger des OGM à des rats. Et c'était interdit d'aller au-delà de 6 mois de faire manger des OGM aux rats. Ben, lui, il a été un peu plus loin. Il a trouvé des trucs. Et donc, il a été cassé après. Mais alors, vraiment cassé, hein, par les lobbies. Hein, voilà. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans ce détail. Mais il a fait un truc intéressant. Il a fait une dégustation d'eau.
Ah oui, c'est effectivement, je le connais, ce livre.
Tu le connais, ce
livre ? Oui. Et le goût, ça s'appelle Le goût des pesticides.
Oui, et il a fait une dégustation d'eau et avec un pesticide, ça s'appelle le Folpel. Mmh. Et il a mis dans l'eau la quantité résiduelle qu'il y a dans les vins. Voilà. Il fait dégustation sans et avec. Il fait déguster ça à un panel de consommateurs.
Oui, de restaurateurs.
Ouais. Et après, il fait... déguster des vins, un avec d'une même parcelle, hein, qui était bio et l'autre qui n'était pas bio. Un avec du Folpel et l'autre avec sans Folpel. Et les dégustateurs retrouvent le Folpel. Ils retrouvent le vin dans lequel, d'une manière statistiquement prouvée. Quoi. Alors c'est bien pour dire que quand on est dans ce que notre démarche, c'est effectivement pour retrouver le véritable goût du fruit. Alors, il faut des fruits mûrs. Hein. On n'aime pas bien les abricots quand ils ne sont pas mûrs, etc. Le raisin, il faut qu'il soit mûr. Là, en ce moment, c'est la mode. Tout le monde nous dit qu'il faut récolter pas mûr pour garder de l'acidité. D'accord, ça fait un vin qui va tenir 3 mois. Et après, on va être rattrapé par le manque de maturité du raisin. Alors nous, on ne travaille pas comme ça. On essaye, de, quoi qu'il arrive, d'avoir une maturité phénolique, d'avoir de manière à ce que le raisin, le vin soit convenu.
Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, parce que le quelque chose qui colle un peu au vin nature, sans doute moins, mais c'est son instabilité, un vin pas fiable, ou voilà, est-ce que... qu'est-ce que vous répondez à ça?
Je dis que
est-ce que ce sont des vins de garde?
Je dis que c'est une galéjade. Je dis que c'est une galéjade.
Alors, c'est pas une expression bretonne, ça, mais j'imagine le sens.
Alors, c'est très simple. Si on met du soufre dans du vin, il est clair qu'on n'aura pas de problème de stabilité bactérienne ou microbienne. Mais ce n'est pas pour ça que le vin va évoluer. Au contraire, le vin va être complètement figé.
C'est-à-dire, donc, une fois soufré, tout ça, il ne bouge plus et là,
ah bah, il ne bouge plus, mais il ne bouge jamais.
D'accord.
Ouais. Il ne bouge jamais. Et même, au contraire...
Et ça, c'est pas une sécurité, ça?
Ah bah, ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ça ne s'améliore pas. Parce qu'on a certains goûts... c'est-à-dire le soufre, les molécules de soufre vont aller avec des molécules du raisin et vont donner des goûts particuliers. Alors le pire, c'est quand c'est des raisins pas mûrs avec du soufre. Là c'est on dit nous ça chenasse. Voilà. Et là c'est le pire. Tandis que quand vous avez un vin qui est fait avec du raisin, voilà, du raisin, eh bien on va pouvoir avoir des évolutions. Effectivement, il n'est pas stable. Puisqu'il n'est pas le même toujours. Aujourd'hui, le gamay chez moi, il goûte beaucoup mieux qu'hier. Et le cucina, il goûte beaucoup moins bien qu'hier.
Ouais, et est-ce qu'il regoutera bien mieux demain?
Bien sûr.
Donc ça, c'est quelque chose qui effraie pas le vigneron en vin nature. Quoi. C'est un peu cet côté un peu aléatoire, changeant. C'est quelque chose avec lequel il faut travailler.
Ben, par exemple...
Et comment on convainc les consommateurs et mieux encore les distributeurs?
Alors, de ce côté-là, il y a quand même un panel de grands restaurateurs qui ont joué le jeu du vin nature. Hein. La plupart des grands restaurateurs, des grands chefs, jouent le jeu du vin nature. Voilà, ça c'est clair. Ça, parce qu'effectivement, la profondeur des goûts du vin nature n'a rien à voir avec les autres.
Comment ça s'est fait justement cette évolution? Parce que des restaurants, comment ça s'est fait? C'est parce qu'en fait, il y a eu la méthode a gagné en qualité? Ou il y a eu plutôt des acteurs comme vous qui ont promu?
Il y a eu de grands vignerons, hein, de la génération d'avant moi. Qu'on ouvert les chemins, quoi. Hein, qui ont fait des vins qui ont été prisés par la grande restauration depuis longtemps. Ouais.
Parce qu'il y a encore quelques années, moi je me souviens de cavistes, hein, qui ne voulaient pas vin nature. On demande à vin nature, non.
Alors en ce moment, les collègues là, qui sont les collègues conventionnels tapent dur sur le vin nature. Alors pourquoi ils tapent dur sur le vin nature? Parce qu'il y a un rétrécissement de la consommation du vin. Organisé par les limonadiers. Hein.
Alors les limonadiers, peut-être rappeler ce que c'est, les grands groupes, hein,
ouais, ouais.
Du pétillant avec ouais. Qui commence par C et qui finit par A.
Ouais, ouais, ou P. Hein.
Ouais, 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 ou ouais. P et qui finit par I. Ouais.
Ouais, ouais.
Oui.
Et ils ont un poids, voilà, et ils attaquent le sincèrement la consommation du vin. Le vin a des problèmes, c'est-à-dire si on en consomme trop, voilà, des problèmes de santé. Mais celui qui consomme trop de limonade a des problèmes de santé aussi, hein, au bout d'un certain temps. Et par exemple, je ne sais pas, mais regardez dans la nomenclature de ce qui est proposé par l'administration par rapport à ce qu'on doit manger et boire. Ils nous ont fait des trucs parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut manger et boire, donc il faut bien regarder. Eh bien, ils conseillent surtout de ne pas dépasser un verre de jus d'orange par jour. Et ils disent deux verres de vin. Mais dans la réalité, on attaque le vin régulièrement. Je pense pour des raisons plus complexes que je ne saurais analyser. Plus complexes que le simple fait qu'il y ait de l'alcool dedans, parce que sinon on attaquerait les mauvais alcools qu'on voit dans la grande distribution, là, les vodkas à 3 francs 6 sous, là, qui sont très mauvais alcools. Et on attaque le vin régulièrement, c'est-à-dire là, les campagnes anti-alcooliques sont toujours des campagnes contre le vin. Je ne dis pas ça pour remettre du du vin à la maternelle, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Mais il faut pas se méprendre. Les grands bénéficiaires de cela, ce sont les limonadiers. Et ça fait longtemps qu'ils nous font la guerre.
Alors on va faire une deuxième pause musicale, Jacques, et on se retrouve tout à l'heure pour une petite, un petit cours de dégustation de vin.
Thank you.
Vous êtes à l'écoute de Transistor sur le 100.4 FM. Nous sommes au Fou en direct depuis le Salon des vins nature et illustration qui se déroule jusqu'à ce dimanche 16 juin. Vous nous écoutez sur la RN165 ou alors ailleurs sur une route de la presqu'île de Crozon. Je vous invite à nous retrouver à ce salon. Vous pouvez découvrir des illustratrices, illustrateurs, des vignerons, vigneronnes qui travaillent en vin méthode nature. Et nous sommes avec Jacques Carroget, co-président du syndicat vin méthode nature. Et donc Jacques, on écoutait la deuxième sélection. Pourquoi et qui et qu'est-ce qu'on a écouté?
On a écouté Maria Callas.
Pourquoi ce deuxième choix musical?
Alors Maria Callas parce que c'était peut-être plus simple que certains autres chanteurs. Voilà. Parce que ma préférence irait plutôt vers un ténor. Mais bon, voilà. Mais j'ai dit, pour passer à la radio, ça va être plus simple que ce soit Maria Callas. Okay. Parce qu'elle a quand même une voix sublime, quoi. C'est quand même... Et puis, ce petit morceau-là, moi, ça me fait frissonner, quoi. J'en ai les larmes aux yeux.
Ouais. Vous mettez un poste de radio dans les... Ça ne fait pas partie de la biodynamie, ça, mettre de la musique à sa vigne?
Nous, on met dans la cave. Moi, je mettais dans la cave et je mettais Jean-Sébastien Bach. Voilà,
okay. C'est pour ça que la paonerie a cette couleur particulière. Alors, Jacques, on va se livrer un petit exercice... hautement radiophonique, qui est déguster un verre de vin. Alors, je vais vous proposer, vous avez un verre de vin en face de vous. Je vais vous demander de le prendre et de faire comme si vous découvriez ce vin. Alors, il va falloir me raconter les étapes. Ou alors, moi, je vais décrire les étapes. Alors, d'abord, on plonge son nez, littéralement, dans le verre. Voilà. Et alors, vous y sentez quoi? Alors, moi, je vais faire comme vous.
Alors... Moi, je ne sais pas trouver les différents parfums. Je l'analyse globalement. C'est-à-dire, ouais. C'est comme vous êtes devant une peinture, vous pouvez regarder toutes les nuances de peinture, vous pouvez regarder l'ensemble. Donc moi, voilà. D'ailleurs, quand vous avez un goût, vraiment une odeur dans le vin, vous pouvez vous poser des questions.
Hein? Vous allez dire la vanille
Quand vous avez la vanille, c'est le chêne, mais quand vous avez goût de fraise, etc., etc., c'est qu'on a mis la levure pour que vous trouviez la fraise, alors que normalement, c'est bien plus complexe.
Bah, pourtant, à chaque fois, on dit, ah, celui-là, il a goût de cassis, hein,
ouais,
il est framboise.
Ouais, ouais.
On le vend comme ça.
Oui, oui, ça fait plaisir aux gens.
Ah, d'accord. Oui. Mais ça me rassure, parce que moi, je ne trouve jamais les fruits. Quoi.
Et ben, je dis, ce n'est pas la peine de les chercher.
Ah, parfait, merci. Merci, Jacques.
Voilà.
Alors, première chose, donc.
On commence à le sentir sans l'aérer.
Ah oui, sans le faire tourner.
Sans le faire tourner.
Ouais.
Et puis après, on l'aère.
Ouais. Alors, ça va permettre quoi, ça cette,
Ça va permettre à d'autres types d'esters de sortir.
Alors, les esters, donc.
Voilà, ce que vous allez voir au nez, quoi. Enfin, ouais. Bref, je ne sais pas quel terme il faut employer.
Ouais, d'accord.
Et d'ailleurs, si tu l'as fait, là, tu vas déjà voir que c'est pas tout à fait la même
chose. Alors, je suis droitier, j'ai un micro dans la main droite, et alors je vais tout éclabousser, quoi.
Et on n'a pas du tout les mêmes odeurs.
Ouais, je vais pas m'exprimer.
Bon, moi, ce que j'aime beaucoup dans le vin, c'est le sentir.
Ouais, non, c'est vrai.
J'adore sentir les vins.
Alors, moi, ce que je trouve fabuleux, c'est quand tu sens et quand tu goûtes, et ben, t'es pas déçu. Parce qu'il y a des fois, tu peux avoir un espèce de... Voilà, il y a un nez, un truc phénoménal, et puis tu goûtes, et puis oh, ça a disparu. Ça existe, ça, non?
Oui, tout existe.
Voilà, deuxième étape. Donc, tu as plongé le nez, on a aéré, et là, on boit.
Il faut répartir partout. Parce que sur la langue, on va avoir les sensations tanniques, les sensations sucrées, les sensations d'alcool. Et dans le rétro-nasal, on va avoir les goûts. Voilà. Et ce qui compte, là je parle pour moi, ce qui compte, c'est la persistance du goût.
Est-ce qu'on parle de longueur en bouche?
Oui, c'est la longueur en bouche. Ouais. Les caudalies, on met le terme qu'on veut derrière ça.
Ouais.
Mais ce qui compte, c'est la persistance en bouche. Moi, j'ai bu des vins qui tenaient plus d'une demi-heure. Hein. Buviez.
C'est économe, ça, c'est pas mal.
C'est économe.
C'est pas mal. Une demi-heure en bouche, c'est bien.
Ouais.
T'as le temps de faire l'entrée, ouais. Le repas et puis le dessert.
Si tu manges, autant, il faut garder la bouche.
D'accord, merde. Okay.
Et donc, et là, ça tient.
On parlait de technique un peu de vin. Et moi, c'est un peu. J'ai envie qu'on lève quelques mystères au niveau des termes. Alors, on va parler un peu de termes qui sont négatifs ou positifs, je ne sais pas, mais moi, je les entends et puis je ne comprends pas. Alors, on va d'abord parler de la réduction. C'est quoi la réduction?
C'est l'inverse de l'oxydation.
Alors c'est quoi l'oxydation?
C'est quand une molécule d'oxygène va sur une autre molécule et ça s'oxyde.
Alors, souvent, il y a des fois...
C'est des pertes de... Alors, je confonds toujours entre les électrons et les atomes. Voilà. Mais alors, c'est soit un gain, soit une perte. Voilà. Électrons ou
de... Mais souvent, on va parler de réduction quand on a un peu... On débouche cette bouteille et puis on a un petit goût d'œuf pourri, là. C'est ça, non?
Alors là, c'est déjà, on va dire, c'est déjà assez poussé. Là, c'est vraiment réduit. Après, des fois, les gens parlent de réduction. C'est juste que le vin est un petit peu fermé aussi. Et en fait, la mise à l'air, ben, tout de suite, on va ouvrir le vin. Et voilà. Après, la vraie réduction, voilà, c'est ce que vous dites. Mais ça va jusqu'au mercaptan. Il y a différents stades après.
Ce qui est quasiment, n'existe jamais en bouteille. Quasiment. Par contre, que les vins nature soient réduits, nous sommes dans une période d'immédiateté. Donc on débouche et on boit.
Mais c'est quoi un vin réduit?
Un vin réduit, c'est un vin qui est privé d'oxygène. Et donc qui, pour donner toute sa plénitude, a besoin d'un apport d'oxygène. Voilà. La bouteille est fortement réductrice, même si on a des bouchons naturels qui laissent passer un tout petit peu d'oxygène. Mais forcément, c'est réduit. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, puisque le soufre, c'est avant tout un antioxydant, avant d'être un antibactérien, c'est un bon antibactérien, un très mauvais levurien. Mais c'est avant tout un antioxydant. Et dans la vinification qui date des années 70, hein, les évolutions de vinification qui datent des années 70, on a fait en sorte que le vin soit réduit toujours, le vin soit toujours sous phase de réduction pour empêcher l'oxydation. Et pour ce faire... Au lieu de travailler avec la matière première, enfin la matière première c'est un vilain mot, au lieu de travailler avec le raisin lui-même, on a rajouté du soufre. Et c'est l'histoire de ces systèmes de vinification qui mettent du soufre dès le début jusqu'à la fin, qui est enseigné à l'école.
Alors deuxième terme moi, qui me pose problème, c'est la souris. C'est quoi la souris?
Personne ne sait.
Ah bah, comme ça c'est très bien.
Ça reste...
C'est quoi la souris?
Eh ben ça reste, voilà, il y a encore beaucoup de recherches d'ailleurs là-dessus. Ouais. Et la souris, il y a aussi l'aspect qui est quand même surprenant, c'est qu'elle peut être réversible, quoi. Enfin, qu'elle est réversible, quoi. On peut avoir un peu de souris sur un vin et puis elle va se fondre et même disparaître complètement des fois.
Ouais, mais c'est quoi, c'est quoi?
Et après, c'est un panel aromatique hein, qui
c'est, paye, c'est un défaut, c'est quelque chose.
On peut considérer ça comme un défaut, voilà.
Les premières cuvées à souris ont été recherchées parce que les gens aimaient ça, et maintenant c'est plus du tout recherché. Non, c'est un défaut.
C'est un défaut. Et ça vient de quoi? Ça, c'est quoi en fait?
Alors, il y a deux types de souris. Il y a souris de mise qu'on appelle. Et là, c'est plutôt une souris de puisque quoi qu'on fasse, quand on met le vin en bouteille, même avec le matériel le plus performant, le plus perfectionné, on remet de l'oxygène dans le vin. Voilà, ça, quoi qu'on fasse. Et donc, le vin, il était dans sa grosse cuve, là, bien réduit, et tout d'un coup, on lui met un peu d'oxygène, et donc là, il lui faut du temps pour ingurgiter l'oxygène. Il lui faut du temps. Le vin, il a une capacité pour ingurgiter l'oxygène qui est maximum au départ de sa vie et qui s'amenuise au fur et à mesure. Et donc, il lui faut un petit peu de temps pour que... Et là, une souris de mise, ça dure 3 mois, ça dure 4 mois. Voilà, c'est pas trop gênant. Par contre, après, on a les souris qui sont plus sévères, qui viennent après. Celle-là. Moi, j'ai eu du vin, une souris 2 ans après. Boum.
Eh bien, sur ces termes techniques, on va devoir se quitter. On va rester autour du... Vas-y, il y a encore le temps d'une question, Sancho.
Alors, tout à l'heure, on parlait de Louis Capard, un poète. Là, je suis entouré de poètes. Il parle du vin comme il parle d'une personne. Je trouve ça génial. Je n'ai pas compris, mais je trouve ça magnifique. Et mon père était viticulteur dans les années... Voilà. Et je n'ai jamais entendu parler de son vin. Il parlait de ses vignes. Mais je n'ai jamais entendu parler de son vin comme vous parlez du vin. C'est magique. Alors, si je le lis, ce que vous dites, j'y comprends rien. De vous écouter, j'y comprends rien. Mais en plus, je trouve ça valorise ce personnage, cet individu qui est le vin, à hauteur poétique de la hauteur de Louis Capard. Voilà. Et une dernière question. Moi, je n'ai pas je n'ai pas d'odeur, je ne sens rien. Ça fait très très longtemps, je n'ai plus, je sens plus le gaz, je ne sens plus rien. Est-ce qu'on peut goûter le vin uniquement sans avoir du nez, uniquement par la bouche?
Ça me semble un peu compliqué.
Donc c'est foutu pour moi.
Ah, voilà, franchement, Sancho, tu finissais vraiment sur une note magnifique. Là, c'était cette poésie, cette envolée lyrique. Et puis là, paf, tu casses tout. Jacques, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Jean, pareil. Donc, vous êtes tous les deux. Alors, pour Jacques, tu proposes les productions de ta fille. Ouais. Et Jean, on le retrouve, la cave à Jeannot, juste à côté de Radio Évasion, pour les productions d'Auvergne. On se retrouve dans quelques instants sur le plateau avec, cette fois-ci, des illustrateurs et illustratrices du CRU, puisque de Douarnenez, dans quelques minutes. Et puis, merci encore à vous.